France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour à vous toutes et tous. Ah, le fameux chassé-croisé des vacances. Première semaine d'août et c'est Gabriel Olivier Aguillon qui vous accueille chaque jour. Alors bonne journée sur France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon. Musique matin.
Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi de août. Toute l'équipe de Musique Matin est très heureuse de débuter ce mois avec vous. Je vous retrouverai du lundi au vendredi entre 7h30 et 9h, une matinale qui, comme le mois dernier, vous informe de l'actualité musicale et culturelle avec nos invités en concert tout l'été. Au programme ce matin, dans 10 minutes, l'actualité musicale ainsi que notre reportage à Prades sur la question du financement de la culture. À 7h50, le jeu de l'été, ce matin, tentait de gagner le disque Richard Strauss de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Pappano, avec également le pianiste Bertrand Chamaillou. À 8h, le journal de Camille Marigot. À 8h10, nous poursuivons notre tour de France des festivals. Ce matin, plein ouest, nous serons avec Lydia Jardon, pianiste et directrice artistique du festival Les Musiciennes à Ouessant. Et puis juste avant de recevoir notre invité, c'est une rubrique que je vous avais déjà proposée l'an dernier, l'écoute d'œuvres de nos jours, place à la création. Ce sera chaque matin à 8h25 et tout à l'heure une compositrice à l'honneur, Isabelle Aboulker. Et à 8h30, avec nous, le clarinettiste Nicolas Balderoux pour ses concerts de l'été, dont celui de demain aux plages musicales d'Ardelot. Et comme chaque petit matin, nous commencerons l'émission avec Jean-Sébastien Bach. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le voici à 7h32. Bon réveil avec France Musique. Thank you. sous les doigts du pianiste polonais Piotr Anderzewski, le prélude en sol dièse mineur BWV 887 du livre 2 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, un extrait de son tout récent disque paru chez Warner, absolument somptueux. À 7h36, toujours le lundi 2 août, oui, et il y a 100 ans, jour pour jour, disparaissait à Naples le grand ténor Enrico Caruso à l'âge de 48 ans, l'Italie qui décrète un jour de deuil national. Artiste à l'avant-garde de l'industrie du disque, Caruso, c'est une voix hors du commun qui s'explique, en plus évidemment du travail, par une bouche très large et des cordes vocales plus longues que la normale. Un répertoire lui aussi très large, de l'opéra bien sûr à la chanson italienne et aux airs traditionnels américains. France Musique vous propose tout l'été, bien sûr, de l'écouter et le réécouter dans diverses émissions. Un portrait également sur le prince des ténors à lire sur notre site francemusique.fr. Et le voici, Enrico Caruso, dans un enregistrement de 1916. Il interprète le rôle du philosophe Colline dans La Bohème de Puccini. J'ai un air écrit pour voix de basse, c'était l'air de Colline Vecchia Zimara de l'acte 4 de La Bohème de Giacomo Puccini, vous l'avez entendu, ça crépite. C'est un enregistrement de 1916 avec la voix d'Enrico Caruso, décédé il y a tout juste 100 ans.
C'est l'été sur France Musique.
Et à 7h39, tout de suite, l'info culturelle avec un autre café, nous ouvrons les journaux ensemble. Hier se terminait le festival Messian au pays de la Meije. Thierry Ilerito du Figaro revient sur l'un des derniers concerts samedi donné par l'orchestre Le Balcon dans le massif des Écrins, concert dirigé par Maxime Pascal. Les musiciens ont joué une œuvre d'Olivier Messiaen, Et expecto, sur un palier culminant à 2400 mètres face au glacier de la Meije. Dans les Hautes-Alpes, le festival dédié aux compositeurs disparus proposait un concert donc face au glacier aussi beau qu'aventureux. Messiaen en aurait lui-même rêvé, nous dit-on, dans cet espace. Dans les faits, aucune trace écrite ne semble corroborer avec certitude cette idée, devenue presque mythique, mais qu'il l'ait imaginée dans sa tête, cela semble plausible, reconnaît Bruno Messina, directeur artistique depuis 2 éditions du festival Messiaen. Un moment donc à couper le souffle devant 300 spectateurs, une poignée de randonneurs émerveillés ou d'auditeurs prévoyants. Notre site francemusique.fr vous propose, lui et par l'équipe du web, plusieurs articles dans nos pages actualités musicales. À noter ce week-end, les BBC Proms qui auront désormais leur propre orchestre. Cette série de concerts qui ouvrait vendredi une nouvelle édition festive qui contraste avec les représentations évidemment sans public l'année passée. Elle s'accompagne de la création d'un orchestre attaché à l'événement, exclusivement composé de musiciens indépendants de premier plan. Et puis à lire aussi sur notre site tout un dossier sur les 80 ans célébrés hier du chef et gambiste Jordi Alice Saval, avec à la réécoute, entre autres, l'émission hier entre 7h et 9h, le bac du dimanche par Corinne Schneider. Nous avons appris la mort vendredi 30 juillet en Guadeloupe de Jacob Desvarieux, guitariste de Cassave et cofondateur du groupe Cassave en 1979. L'instrumentiste guadeloupéen était âgé de 65 ans. Et enfin, Res Musica, sous la plume de Patrice Imbaud, signe un article, un portrait sur Pierre Bleuze, le nouveau directeur artistique du Festival de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, à l'ouest de Perpignan, un festival en partenariat avec France Musique du 30 juillet au 13 août. Et justement, en fin de semaine dernière, vendredi, avait lieu à Prades les premières rencontres culturelles organisées par le journal La Tribune en partenariat avec France Musique, l'occasion de rappeler l'importance de la culture comme levier économique et de questionner la place des entreprises dans son financement. Un reportage de Guillaume de Calfe.
Cet entretien de filière, de carrière...
Culture et économie, deux univers qui rechignent parfois à se parler et qui étaient invités à se rencontrer à Prades en marge du festival Pablo Casals. L'événement réunissait responsables de mécénat, économistes et acteurs du monde de la culture. L'objectif ? Proposer un état des lieux d'un secteur qui réunit plus de 600 000 salariés en France et pèse plus lourd que l'industrie automobile. À l'origine de ces rencontres, le chef d'orchestre Pierre Bleuze, directeur artistique du festival Pablo Casals.
Pour moi, c'était essentiel, lorsqu'on m'a confié la direction artistique de ce beau festival, d'avoir un vrai projet qui mêlait économie et culture. J'ai toujours cru, dans le passé, j'avais déjà organisé des rencontres économiques et culturelles avec la Norvège. Pour moi, comme musicien, c'était l'opportunité aussi, tout simplement, de parler aux entreprises, de parler de l'importance de nous soutenir. C'est juste un système qui devrait être naturel, c'est-à-dire comprendre que autour de ce thème qui est l'arche de la culture, on a besoin d'être tous réunis, que ce soit les privés ou les collectivités publiques ou privées. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer.
Un rôle d'autant plus important au regard de la situation des musiciens depuis le début de la crise sanitaire. Si l'État a répondu présent et a débloqué les aides essentielles à leur survie, le mécénat n'a pas été en reste. Zélia Housset, responsable du programme de mécénat musique à la Caisse des dépôts.
Pendant la pandémie, la première chose, ça a été en fait de maintenir nos soutiens, notamment auprès des jeunes ensembles, qui effectivement n'avaient plus d'activité de concert ou parfois pouvaient avoir des activités d'enregistrement numérique, mais qui n'étaient pas du tout l'activité prévisionnelle. On ne fait pas de mécénat de projet pour la musique, c'est-à-dire qu'on soutient l'intégralité de la saison des ensembles. Donc il fallait bien continuer à soutenir le fonctionnement des structures parce que si la structure s'effondre, l'activité artistique s'effondre avec. On a essayé vraiment de répondre aux besoins qui étaient celui de nos partenaires et d'être utile en fait.
L'avenir de la musique est-il dans le mécénat ? Pour Lionel Esparza, producteur de Relax sur France Musique et auteur d'un livre sur le génie des modernes, l'État fait de plus en plus appel aux entreprises pour financer la culture, ce qui pourrait mettre la musique dans une situation compliquée.
On sent bien qu'il y a là une question, un vrai problème, que l'État se questionne lui-même sur ce qu'il en est de sa capacité à subventionner l'art et sur sur le fait que ce soit légitime. Pourquoi il le fait aujourd'hui ? C'est pas simplement qu'il manque d'argent, c'est que la question de la légitimité même de la chose et de la fonction de la culture à l'intérieur de l'appareil d'État est une question aujourd'hui. Et en effet, l'État ne cesse depuis pas mal de temps maintenant d'encourager les entreprises à prendre la suite, en quelque sorte. Ce que d'une certaine manière elles font, en tout cas pour certains domaines artistiques. L'image, encore une fois, un petit peu pas négatif, ça reste un modèle de prestige quand même la musique, hein. Mais un modèle de prestige un peu suranné, hein, un peu daté, qui n'a pas tellement évolué dans l'esprit des gens et dans l'inconscient collectif. Donc investir là-dedans, si on n'en a pas vraiment la passion, c'est pas quelque chose que vont faire naturellement les mécènes.
Les vidéos de ces premières rencontres de la culture seront bientôt disponibles sur le site internet de la Tribune. Le festival Pablo Casals se tient quant à lui jusqu'au 13 août à Prades. Le premier concert a été diffusé, vous l'avez peut-être écouté, vendredi en direct sur France Musique. Et il est disponible à la réécoute sur notre site francemusique.fr. Pablo Casals, que voilà dans un enregistrement de 1952, déjà au festival de Prades, avec Alexandre Schneider au violon et Mieczysław Orzowski au piano dans le Mitfeuer, un mouvement du trio numéro 1 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Un extrait du mouvement Midfeuer du trio numéro 1 en ré mineur opus 63, non pas de Mozart mais de Robert Schumann. En tout cas, les interprètes étaient les bons, Pablo Casals au violoncelle, Alexandre Schneider au violon et Mieczysław Orzowski au piano. C'était un enregistrement qui date de 1952, un concert donné lors du festival de Prade. Alors, êtes-vous réveillé à 7h50, prêt à participer, comme chaque matin, répondre à notre grande question du jour pour tenter de gagner des disques? Eh bien oui, c'est maintenant notre jeu de l'été. Et donc, à gagner ce matin, le disque Richard Strauss proposé par Antonio Papano à la tête de l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile et Bertrand Chamaillou, qui d'ailleurs sera en concert demain au festival Pablo Casals à Prades. Alors pour gagner, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre que je vais vous poser en nous écrivant via l'onglet Contactez-nous sur la page de l'émission Musique Matin sur notre site francemusique.fr. Évidemment, n'oubliez pas de nous envoyer vos coordonnées complètes pour recevoir le disque. Voici donc la question. Mais qui est donc le héros mis en musique dans ce poème symphonique « Une vie de héros » de Richard Strauss ? Est-ce Napoléon ? Est-ce le compositeur lui-même ? Ou bien Miguel de Cervantes ? Qui est le héros mis en musique par Richard Strauss dans son poème symphonique « Une vie de héros » ? Napoléon ? Le compositeur lui-même ou Miguel de Cervantes? Je donne la réponse évidemment dans une heure. Il faut rester avec nous, oui, parce que ce sera juste avant 9h. Un extrait de la deuxième partie d'une vie de héros de Richard Strauss, Les adversaires du héros, interprété par l'orchestre de l'Académie de Sainte-Cécile, dirigé par Antonio Papano. Un extrait du disque à gagner ce matin, paru chez Warner cette année. Eh bien oui, un cadeau par jour à vous offrir dans notre émission. Les concerts se poursuivent et pour vous, du côté de Toulouse, dans la ravissante chapelle baroque des Carmélites, le festival Musique en dialogue aux Carmélites continue sa route depuis juin et jusqu'en septembre, cette année autour du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Prochain concert sur le thème de la faune et la flore ce dimanche 8 août à 16h avec Vanessa Wagner au piano et l'actrice Marianne Denicourt. Un magnifique programme sur la nature et les oiseaux. Alors, en attendant dimanche et en attendant Toulouse, voici Vanessa Wagner ici, interprétant Railroad de Meredith Monk. Railroad, signée Meredith Monk, compositrice mais aussi chorégraphe, danseuse et réalisatrice américaine née en 1942. C'était à l'instant l'interprétation de Vanessa Wagner qui, je le rappelle, sera en concert ce dimanche 8 août à 16h en la chapelle baroque des Carmélites à Toulouse. Musique Matin, nous revenons à tout de suite et à 8h30, nous recevrons le clarinettiste Nicolas Baldero.
Ce soir sur France Musique à 21h, le concert en direct du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron. Boris Berezovsky joue Beethoven et Liszt dans le parc du Château de Florent. Cet immense virtuose russe vous emmène vers Venise et Naples. Extrait des années de pèlerinage de Liszt, puis suivront deux sonates de Beethoven dédiées à Haydn. Boris Berezovsky en direct de la Roque d'Anthéron, une soirée à ne pas manquer ce soir à 21h sur France Musique.
Et si Clara Schumann avait été un homme? Et si Wagner n'avait pas rencontré Louis II? Et si Proust avait écrit un livret d'opéra? Les uchronies musicales de Laurent Villarème refont l'histoire. Rendez-vous dimanche à 17h30 sur France Musique et quand vous le souhaitez, sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles, et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Lundi 2 août, merci d'écouter France Musique. Le réveil sonne tout juste, normal, il est 8h. Et à 8h, l'heure des informations, le journal vous est présenté ce matin par Camille Marigaud. Bonjour Camille.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Elles et ils sont 102 femmes et 23 hommes à avoir été tués sous les coups de leur conjoint en 2020 en France, soit une victime tous les 3 jours. Il s'agit certes du bilan le plus bas enregistré depuis de nombreuses années, mais le nombre d'interventions des forces de police pour des cas de maltraitance intrafamiliale ne cesse d'augmenter à raison de 45 par heure l'an dernier. Des chiffres évoqué dans une interview au Parisien ce matin par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui annonce un renforcement des mesures mises en place il y a 2 ans à l'occasion d'un Grenelle consacré à ces violences. Jean-Philippe Degnaud.
Première mesure, Gérald Darmanin annonce la fin des mains courantes. Désormais, si une femme franchit la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour dénoncer des violences, une plainte sera systématiquement enregistrée et si elle ne le souhaite pas, un signalement sera transmis au parquet. Une application sera aussi créée à la rentrée pour que chacun puisse signaler des violences dont il serait le témoin. Le ministre promet également davantage de moyens pour traiter ces plaintes avec des brigades de protection de la famille partout. Il en manque 22 sur le territoire. La présence d'un policier ou d'un gendarme référent dans chaque structure et la nomination à la fin du mois d'un coordinateur national comme il en existe en matière de lutte contre les stupéfiants ou le terrorisme. Gérald Darmanin annonce également une augmentation des primes pour les officiers de police judiciaire afin de rendre le métier plus attractif, dit-il. Ils sont 17 000 en France, il en faudrait 22 000 pour traiter les 193 000 procédures engagées l'an dernier dans des dossiers de violence conjugale.
Des hospitalisations de patients atteints du Covid-19 toujours en hausse. Elles sont plus de 7500 personnes prises en charge, dont plus d'un millier en soins critiques, selon Santé publique France. L'inquiétude se porte depuis plusieurs jours sur certains territoires d'outre-mer où la vaccination peine à progresser. Ce week-end, un vaccinodrome et une pharmacie ont été incendiés à Fort-de-France, en Martinique, dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Cela intervenait au lendemain de l'instauration d'un nouveau couvre-feu sur l'île. Des phénomènes historiques de chaleur frappent en ce moment l'Espagne, la Grèce ou encore la Turquie, le pourtour méditerranéen, confronté à des températures caniculaires et à des feux de forêt qui ont déjà provoqué l'évacuation de très nombreux villages autour des stations balnéaires turques de Bodrum et d'Antalya. 8 décès ont déjà été recensés. Le pays subit les pires incendies depuis une décennie. Dans le sud de la Grèce, près de 13 500 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, soit en moyenne 2 fois plus que ces 15 dernières années. Les côtes européennes de la Méditerranée que de nombreux migrants veulent toujours rallier au péril de leur vie. Depuis samedi, plus de 700 personnes ont été secourues en mer par les navires de l'ONG allemande Sea-Watch et SOS Méditerranée. Son bateau, l'Ocean Viking, compte actuellement à son bord des centaines de rescapés. Écoutez Sophie Beau, cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée.
Nous avons effectué depuis samedi 6 sauvetages au large de la Libye permettant de mettre en sécurité à bord de notre navire 555 personnes très exactement qui sont donc maintenant en sécurité et en attente de la désignation d'un port sûr. Parmi eux, une cinquantaine de femmes, on dénombre aussi 119 mineurs. Beaucoup sont des enfants qui sont non accompagnés par des adultes. Voilà, beaucoup ont vécu des moments totalement traumatisants et puis notamment il y a eu un sauvetage de nuit auprès d'une très grosse embarcation en bois qui a été secouru d'abord par l'ONG Sea-Watch et nous sommes arrivés en renfort. Ce bateau était sur le point de couler, il avait pris l'eau. Il y avait 400 personnes qui étaient entassées à l'intérieur d'une cale et sur le pont et ça se passait de nuit, donc dans des conditions extrêmement compliquées. On n'a pas la certitude malheureusement que tous ont pu être secourus. En ce qui concerne le Sea Viking, nous avons pu accueillir 253 personnes à bord de cette embarcation et puis Sea-Watch a pris les autres à son bord. Voilà, donc c'est beaucoup d'opérations effectivement et qui font suite en fait à une fenêtre météo de temps calme avec énormément de départs depuis la Libye ce week-end.
Sophie Beau, cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée, au micro de Nabila Hamel. L'athlète bélarusse Kristina Tsimanouskaya en sécurité au Japon assure le comité international olympique. La sprinteuse de 24 ans qui participe aux Jeux de Tokyo avait assuré être menacée d'un retour forcé dans son pays après des critiques contre sa fédération. Enfin, cela intervient alors que le régime du président Loukachenko poursuit la répression contre les opposants bélarusses. Un ciel ensoleillé ce lundi de la Corse vers la région PACA et le Languedoc-Roussillon. Des éclaircies plus rares au nord du pays avec des averses attendues vers l'Aquitaine, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Grand Est. On attend de 10 à 19 pour les minimales, de 20 à 30 degrés pour les températures maximales. France Musique, il est 8h passé de 5 minutes. L'heure de retrouver Gabriel Oliveira Guyon dans Musique Matin.
Merci beaucoup Camille Marigot. Rendez-vous demain à 8h. Et puis prochain journal sur France Musique à midi. À demain. Deuxième partie de Musique Matin, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, à venir dans 5 minutes notre Tour de France des festivals. Aujourd'hui, direction le Finistère pour le festival Les Musiciennes à Ouessant. À 8h25, notre nouvelle rubrique pour tout le mois d'août, place à la création. Chaque matin, la découverte d'un compositeur ou d'une compositrice d'aujourd'hui. Et ce matin, Isabelle Aboulker à l'honneur. Et puis enfin, à 8h30, notre entretien avec le clarinettiste Nicolas Baldérou, qui sera donc notre invité. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un très bon réveil avec France Musique.
Thank you.
Eh bien voilà, qui donne des frissons à 8h10 sur France Musique. Le final du trio en la mineur opus 114 de Johannes Brahms, interprété par Raphaël Sévère à la clarinette, Victor-Julien Laferrière au violoncelle et Adam Laloum au piano. Trois musiciens qui seront présents justement dans le cadre du festival Le Vent sur l'Arbre en Bourgogne, autour du Millet et du château de Magny, entre autres, dont la direction artistique est assurée par le compositeur et musicien Christian Rivet. Christian Rivet, un festival qui se tiendra du 3 dès demain, donc au 7 août. Plusieurs concerts, une belle programmation, création mondiale, exposition, ciné, concert, danse et yoga. Toutes les informations sur levent-sur-l'arbre.fr avec comme fil rouge cette année le thème de la folie. France Musique. Et notre petit vélo a été soigneusement posé par Clément Rochefort contre le tronc d'arbre, les clés du cadenas cachées sous la première pierre, et à nous de poursuivre la route ce matin, direction le Finistère, l'île de Ouessant. Et nous sommes en ligne avec Lydia Jardon, bonjour.
Bonjour et merci de nous recevoir sur votre antenne pour cette première journée de festival.
Absolument, avec grand plaisir Lydia Jardon, vous êtes pianiste et directrice artistique et créatrice du festival Les Musiciennes à Ouessant, 20e édition cette année donc, qui commence aujourd'hui et se poursuit jusqu'à mercredi le 4 août. C'est donc vous qui avez créé ce festival sur cette île cette année. Un thème, le mariage des instruments celtes et des chants bretons avec la musique classique. Des programmes qui mêleront donc tous ces deux répertoires.
Oui, cette symbiose identitaire par rapport aux instruments celtiques qui peut partager un concert comme ce soir à 21h entre une harpe celtique et des chants bretons et les airs les plus célèbres du bel canto. C'est tout à fait envisageable ou marier le Bodran avec un trio de Brahms, c'est possible aussi.
Alors on va commencer.
Croyez-moi, ça fonctionne.
Oui, j'imagine. On va commencer par les choses concrètes. Comment on peut arriver à Ouessant ? D'où peut-on prendre le bateau pour arriver sur l'île ?
Je vous conseille vivement d'embarquer au port du Conquet. Ça limite la durée de la traversée. Autrement, vous serez dans les tourbillons agités du Fromveur et la traversée dure 3 heures de Brest. Donc c'est plus rapide. Voilà.
Un grand rendez-vous, ce festival Les Musiciennes à Ouessant autour des femmes musiciennes. Cette année, une compositrice à l'honneur, c'est Florentine Mulsan qui elle-même a invité Camille Pépin au programme.
Voilà, c'est nouveau depuis cette année. Florentine nous fait plaisir d'être la marraine de ce festival désormais et invitera chaque année une jeune consoeur. Et elle a choisi Camille Pépin, que nous recevrons demain et dont nous entendrons naturellement les œuvres.
Des rencontres sont prévues d'ailleurs, Florentine Mulsan à vos côtés tout à l'heure à 11h30. Et puis évidemment une dizaine de concerts dans l'église Saint-Paul Aurélien ou bien en extérieur. Toutes les informations évidemment sur notre site et puis sur votre site musicienne au pluriel à ouessant.com. Vous-même, vous jouerez, Lydia Jardon, des œuvres d'un compositeur que vous avez gravé au disque Nikolaï Miaskovski.
Oui, tout à l'heure à 15h30, en effet, ça fera en tout 12 ans consacré à ce compositeur lorsque j'aurai achevé de graver cette intégrale des sonates de ce compositeur qui me tient particulièrement à cœur. C'est vrai, personnage ambigu, une dualité intérieure particulière, 5 médailles de Lénine et Staline, et puis après confiné avant l'heure et assigné à résidence où il a été destitué de son poste de professeur au conservatoire Tchaïkovski et on ne trouvait plus une de ses œuvres dans les bibliothèques. Vous voyez, c'est vraiment très très particulier.
Nikolaï Miaskovski, donc au programme de l'un des concerts que vous proposez lors de votre festival Les Musiciennes à Ouessant, qui, je le rappelle, commence aujourd'hui et se poursuit jusqu'à mercredi. On va vous écouter, Lydia Jardon, justement dans l'Allegro Capriccioso de la sonate pour piano numéro 5 de Miaskovski. Je vous souhaite un très beau festival et merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, au revoir. Thank you.
Lydia Jardon dans l'Allegretto Capriccioso de la sonate pour piano numéro 5 en si majeur opus 64 numéro 1 de Nikolaï Miaskowski. Merci d'écouter France Musique, il est 8h20.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Et si vous n'avez pas la possibilité, ni la chance, ni l'envie d'ailleurs, pourquoi pas, d'aller au concert ce soir, eh bien grâce à France Musique, sans bouger de chez vous ou de votre voiture, voici le programme de votre après-midi ou soirée musicale. 3 concerts inédits à 16h, concert Bernstein, Stravinsky et Gershwin par Natalia Milstein au piano, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, et un concert présenté par ma chère Aliette Delalleux. À 21h, le pianiste Boris Berezovsky en direct depuis le Festival de la Roque d'Anteron, au programme 2 sonates de Beethoven et des extraits des années de pèlerinage de Franz Liszt, présenté par Jean-Baptiste Urbain. Et puis à 21h30, on continue avec Marciac, un concert présenté par notre chère également, Nathalie Piollet. Liszt par Berezovsky, c'est un jeu démoniaque et diabolique, et particulièrement dans l'Allegro Martial Animato, le final du premier concerto de Franz Liszt. Le voici, Boris Berezovsky, accompagné par le Philharmonia Orchestra et Hugo Wolf à la direction. le Philharmonia Orchestra dirigé par Hugo Wolf et avec au piano Boris Berezovsky dans l'Allegro Martial et Animato du concerto numéro 1 en mi bémol majeur de Franz Liszt. Un concerto créé en 1855 à Weimar par Liszt lui-même au piano et Hector Berlioz à la baguette. 8h25, tout le mois d'août, nous allons faire maintenant place à la création.
C'est l'été sur France Musique.
Place à la création, une rubrique à laquelle j'avais déjà pensé l'été dernier pour valoriser la création d'aujourd'hui. Nous poursuivons donc cet été encore ce qui se fait par des hommes et des femmes qui écrivent et pensent la musique de notre temps. Écouter autrement ce qui se fait, rencontrer des compositeurs et compositrices comme des artisans, artistes vivants, réunit la plupart, toute esthétique confondue, dans une fédération professionnelle qui compte défendre la place de la composition musicale dans la création contemporaine. Fédération créée à l'initiative de Jean-Louis Agobet et Benoît Menut. Une belle occasion pour nous en ce mois d'août de les écouter, de vous faire découvrir peut-être de belles œuvres et de beaux projets musicaux tout récents. Et aujourd'hui, une compositrice à l'honneur, Isabelle Aboulker, une compositrice née en 1938 dans une famille de cinéastes, compositeurs, écrivains, accompagnatrice, chef de chant et professeur auprès des jeunes chanteurs au CNSM. C'est autour de la voix et de l'opéra qu'elle se concentre à partir de 1981. Elle est attentive à la prosodie, exigeante dans le choix de ses livrets. Elle se veut héritière de la tradition française de Debussy, Ravel, Poulenc. Et ce matin, je vous propose un extrait de son conte musical, Mila et l'arbre bateau. Mila, d'ailleurs, c'est aussi le prénom de la petite fille d'Isabelle Aboulker, un conte musical composé et écrit en 2016 par Isabelle Aboulker, une pièce commandée par l'Académie musicale de Villecroze à destination des élèves de maternelle qui a eu beaucoup de succès. Voici tout de suite la version magnifique de La Maîtrise de Radio France. Et l'arbre bateau, composé par Isabelle Aboulker en 2016, une œuvre pour laquelle Isabelle Aboulker a reçu le prix de l'enseignement musical par la Chambre syndicale des éditeurs de musique de France. C'était la version de La Maîtrise de Radio France avec Camille Bourouillou à la direction et Vincent Varnier au piano. 8h30 dans quelques secondes, il est donc l'heure d'accueillir notre invité.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h30-9h de Gabriel Oliver Aguillon.
Et notre invité ce matin, le clarinettiste Nicolas Baldérou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc clarinettiste, clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais aussi enseignant. Et vous venez parallèlement à cela, vous menez une carrière de soliste. Vous serez en concert, en petite formation donc de chambre, demain au festival Les Plages Musicales d'Ardelot sur la côte d'Opale dans le Pas-de-Calais, mardi 3 août, donc avec le Quatuor Hermès, dans le quintet opus 34 de Karl Maria von Weber. Un mot peut-être sur cette œuvre que vous allez jouer, composée dans les années 1810, un peu comme ces deux concertos pour clarinette d'ailleurs.
Tout à fait. Bah, Weber, c'est un compositeur emblématique pour la clarinette. C'est avec Mozart, celui qui a donné ses lettres de noblesse à l'instrument, avec des concertos et des pièces qui sont encore jouées à peu près par tous les clarinettistes du monde aujourd'hui. Et donc, c'est une pièce finalement que j'ai pas jouée si souvent, donc je suis très très heureux de la retrouver avec le Quatuor Hermès. C'est très concertant, c'est très virtuose, c'est acrobatique, quoi. C'est vraiment un concerto miniature pour clarinette et c'est un plaisir immense.
Et alors ce Festival d'Art de l'Eau, est-ce que c'est une première pour vous ?
Absolument, moi je connais bien Philippe Cassard.
Qui a donc repris la direction artistique.
Exactement, qui est un ami de longue date et quelqu'un que j'admire beaucoup à tout point de vue. Et donc voilà, moi c'est une grande première, c'est aussi une grande première avec le Quatuor Hermès que je connais depuis longtemps, mais finalement avec qui je n'avais jamais joué. Donc voilà, c'est la journée des premières demain.
Alors nous allons vous écouter déjà dans l'œuvre de Carl Maria von Weber, dans le concerto pour clarinette numéro 2, accompagné par l'orchestre Victor Hugo et Jean-François Verdier à la direction.
Thank you.
8h37 sur France Musique, le troisième mouvement Alla Polacca du second concerto pour clarinette en mi bémol majeur de Carl Maria von Weber avec l'orchestre Victor Hugo dirigé par Jean-François Verdier et Nicolas Balderou, notre invité à la clarinette. Nicolas Balderou, cette œuvre-là, vous l'avez... Je vois que vous étiez en train de vous écouter, d'analyser.
En fait,
un peu.
C'est souvent le cas avec les enregistrements, c'est qu'on est dans la... Dans l'excitation de l'enregistrement sur le moment, il y a beaucoup de travail et puis après on laisse un petit peu de côté cette galette et puis on la réécoute beaucoup plus tard en fait avec un œil neuf et une oreille neuve plutôt. Mmh. Et moi je l'avais pas entendu en fait depuis des années quoi, depuis au moins ouais c'est ça, je pense que depuis sa parution
en 2018.
Donc ça fait toujours un petit peu bizarre, voilà. Mais...
Nicolas Balderou, Carl Maria von Weber, que vous retrouverez donc demain pour votre concert avec le Quatuor Hermès dans le quintet opus 34 donc de ce compositeur. Est-ce que l'été, pour vous, vous qui êtes clarinette solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, est-ce que l'été, pour vous, c'est aussi un moment pour aborder un répertoire un peu nouveau avec des artistes avec qui vous n'avez pas l'habitude de jouer, comme vous le disiez tout à l'heure, le Quatuor Hermès? Au niveau du répertoire, c'est aussi le cas?
C'est oui, à tout niveau en fait, parce que moi je fais quand même beaucoup d'orchestre l'année, je fais des concerts à côté, mais là on a enfin une plage complètement libre l'été pour s'organiser comme on l'entend, et donc pas mal, peut-être plus de musique de chambre que d'habitude justement, donc avec des rencontres, avec des gens avec qui je n'ai pas l'habitude de jouer, et évidemment c'est aussi le moment d'explorer du répertoire tout à fait, donc de multiplier les expériences, donc c'est toujours riche en fait, on se dit que l'été c'est fait aussi pour se reposer, mais finalement pas tant que ça pour les musiciens, et c'est vraiment l'occasion pour moi de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
En concert donc demain aux plages musicales d'Ardelot, le 6 août également à Saint-Antonin en Aveyron, et puis également dans le Var, à la Londe, les Morts, le 27 août, là aussi, musique de chambre.
Tout à fait, avec les amis de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, justement, on se retrouve là-bas pour un programme de musique de chambre très varié autour du basson, du hautbois, de la clarinette et du piano.
Très bien. Alors, Nicolas Balderou, un mot sur votre disque Dialogue, paru chez Clart l'an dernier, où vous avez enregistré des œuvres de Pierre Boulez, Michael Jarel et Bruno Mantovani. Le premier né en 1925, le deuxième en 58 et le dernier en 74. Un programme brillant. Je sais que vous êtes très actif dans l'interprétation d'œuvres de votre temps. Est-ce que là, vous avez des projets, des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à ça, à ce répertoire d'aujourd'hui?
Bah justement, moi c'était un projet de très très longue date parce que j'avais eu la chance de travailler déjà Domaine, donc de une des deux pièces de Boulez sur le disque avec le compositeur, il y a déjà plus de 20 ans. Mmh. Et donc j'avais très très envie de le faire dans sa version originale en fait pour clarinette et ensemble, plusieurs ensembles qui se succèdent après chaque pièce. Et donc ça n'avait pas été fait depuis quasiment 50 ans. Et donc, voilà, c'était l'occasion de le faire avec une autre pièce emblématique qui s'appelle Dialogue de l'ombre double pour clarinette et électronique. Et j'y ai adjoint justement deux pièces que j'adore, que j'ai beaucoup joué clarinette seule. Donc, ils sont pas directement liés dans le style, mais quand même, les compositeurs avouent avoir eu cette filiation et cette influence de Boulez sur peut-être d'autres plans.
Alors, on va parler peut-être précisément de Bug de Bruno Mantovani, qu'il a composé en 1998. Une œuvre virtuose, assez instable, hein. C'est un désordre provoqué, il le dit, par une panne informatique imaginaire, le fameux bug de l'an 2000, voilà. Qui n'a donc jamais eu lieu. Comment est-ce qu'on va en écouter un extrait? Comment vous pouvez nous l'expliquer, cette œuvre, avec peut-être des clés d'écoute qui feront peut-être
moins... J'adore cette pièce, en fait. Donc, il y a un côté, justement, très mécanique, très robotique, justement, par rapport à cette machine. Et donc, une machine dont on a des éléments au début, qui commence à s'emballer au milieu, qui devient complètement folle, et qui, à la fin, justement, bug et se crash complètement, et s'éteint peu à peu. Et donc c'est un peu de la musique à programme, mais pas seulement. Et donc c'est une pièce qui a vraiment très rapidement trouvé sa place dans le répertoire de la clarinette aujourd'hui, et qui est extrêmement jouée à travers le monde, qui a un grand succès.
Hein. Et vous qui êtes professeur, vous l'enseignez par exemple à certains de vos élèves qui souhaitent la jouer?
Ah oui, c'est quasiment un passage obligé. D'accord. Maintenant, tous ceux qui souhaitent faire des concours, ou alors juste pour leur culture et pour leur plaisir, c'est une pièce qui est quasiment jouée par tous les clarinettistes, au moins français, on va dire.
On va en écouter un extrait, donc Bug de Bruno Mantovani, interprété par Nicolas Balderou, notre invité. Thank you. à la clarinette Nicolas Baldero dans un extrait de l'œuvre de Bruno Mantovani, Bug. Nicolas Baldero, vous êtes avec nous, c'est donc un extrait de votre récent disque paru chez Clart, Dialogue. L'enseignement, on en parlait, juste pour revenir à ça, vous êtes donc professeur de clarinette au CNSM de Lyon. C'est quelque chose qui nourrit, qui vous nourrit aussi d'enseigner à l'autre ?
Absolument, bah, la transmission, et puis ça c'est une évidence, mais aussi tout ce que les élèves nous apportent. Et voilà, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir en fait à l'approche de l'instrument et à comment expliquer, transmettre tout ça, donner la foi dans ce métier et comment donner toutes les clés aux jeunes musiciens pour faire une carrière plus tard. Ça nous oblige à beaucoup, beaucoup d'introspection finalement, le fait de donner. Et bah, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment m'apporte tellement chaque semaine, à chaque fois que j'y vais. Donc moi, c'est vraiment une part importante de mon activité. Hein.
À côté, vous êtes donc clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. La transmission, on le voit aussi parce que depuis quelques temps, années peut-être moi, vous faites de belles vidéos sur Instagram. Il y a un côté très pédagogique, fascinant sur l'instrument, comme vous en parlez, très musical. Mais ça dépoussière aussi un peu le monde de la musique classique. On sent que vous vous amusez avec la vidéo, mais surtout la musique. Vous y prenez vraiment goût.
Ah oui, moi je me suis éclaté à faire ça pendant le confinement en fait. J'avais commencé un petit peu avant, mais ça a été l'occasion ou jamais de beaucoup apprendre en fait, parce que ça demande un petit peu de connaissances en voilà, comment s'enregistrer, comment filmer, comment monter après. Et je me suis beaucoup amusé, et puis j'ai essayé de créer une sorte de nouveau format en fait, avec des pièces assez courtes, assez ludiques, avec un petit peu d'humour, avec aussi beaucoup de virtuosité en général. Donc bah, j'étais très heureux que ça prenne bien, ouais, et que les gens s'amusent bien en tout cas à regarder ça. Donc
et
voilà.
Il y a quelque chose qui fascine beaucoup les personnes qui regardent ces vidéos, c'est le souffle continu. Comment on fait ça? Comment ça marche?
C'est pas si compliqué en fait. La respiration continue, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est une technique qu'on aborde beaucoup en musique contemporaine par exemple, où on doit faire des très très longues plages comme ça sans jamais respirer. Il suffit juste de savoir gonfler ses joues en fait, et pendant qu'on expulse l'air avec ses joues, on respire avec le nez. Ça paraît un peu technique comme ça, mais finalement c'est pas si compliqué.
Bon, on va pas essayer là. En tout cas, on va écouter un petit extrait d'une de vos vidéos, justement, vidéo Instagram. À 8h46, très court, je crois justement que ça dure 46 secondes. D'après le caprice numéro 2 pour violon de Pierre Rode, ici donc à la clarinette, interprété par Nicolas Baldero. Là justement, il y a le souffle continu là-dedans, en 46 secondes.
Non, là j'ai même pas eu besoin. C'est tellement court, c'était vraiment calibré format petite vignette Instagram, quoi, on va dire, moins d'une minute.
Alors, quelle clarinette? Vous jouez plusieurs clarinettes, on le voit d'ailleurs dans vos vidéos, et du corps également. Là par exemple, c'est une clarinette particulière pour
là, c'est vraiment la clarinette classique en si bémol, celle qu'on joue et qu'on apprend quand on est petit, quoi. C'est vraiment le standard, on va dire.
Vous êtes l'un des ambassadeurs de Buffet Crampon, une entreprise qui a bientôt 200 ans. Quelles sont les évolutions? Vous participez aussi à la fabrication, à comment on pense l'instrument. Quelles sont les évolutions notoires, les renouvellement de cet instrument, Nicolas Baldero?
C'est ça qui est amusant, c'est que contrairement au violon qui est une sorte de produit fini depuis pas mal de temps déjà, nous la clarinette ça continue à évoluer en permanence. Déjà il y a 13 clarinettes différentes, donc il y a l'embarras du choix. Si on a envie de travailler sur un modèle, il y a vraiment de la petite clarinette en la bémol jusqu'à la contrebasse, il y a vraiment beaucoup de variétés. Mais bah, on continue à travailler en fait déjà sur les bois en eux-mêmes pour apporter des couleurs différentes. On en a sorti une en buis, une en mopane aussi, qui est un bois très proche de l'ébène, un petit peu chocolat, qui est magnifique et qui apporte des couleurs différentes. Et ensuite, bah, il y a tout le côté projection du son, sonorité, avec le travail sur le tube à l'intérieur qu'on appelle la perce, l'emplacement des trous, leur fraisage, tout ça. En fait, il y a une infinité de possibilités pour donner un confort et une projection différente à l'instrument.
Bon, vous en parlez, vous avez l'air passionné, vous aimez participer à ça.
J'adore ça, moi, j'adore ça, c'est passionnant. Ouais.
Alors, juste pour revenir au dialogue que vous proposez dans votre disque, Dialogue au pluriel, le dialogue en musique, donc, qui fait justement dialoguer des compositeurs de générations différentes, Boulez en 25, Jarrel en 58, Mantovani en 74. Là, maintenant, si je vous proposais, vous aimeriez faire dialoguer quoi prochainement?
Ah, moi, j'ai très envie de faire dialoguer la clarinette avec des compositeurs baroques qui l'ont pas connu en fait l'instrument. J'adorerais imaginer ce que...
La première clarinette date de quand ?
On va dire que ça, l'ancêtre, c'est le chalumeau, donc c'est à peu près midi et 17e. Mais après, il s'est pas passé grand chose pendant plusieurs années, et c'est vraiment autour de 1720 à peu près que ça a commencé à apparaître un petit peu partout en Europe, donc un petit peu en Italie, un petit peu en France aussi avec Rameau. Mais on va dire que c'est Mozart le premier qui a, voilà.
Donc un dialogue prochainement entre la clarinette et la musique baroque.
Oui, j'adorerais.
Vous nous tiendrez au courant. Je rappelle que vous serez en concert demain à 20h30 au festival Les Plages Musicales d'Art de l'Eau dans le Pas-de-Calais avec le quatuor Hermès, soirée où l'on entendra également le pianiste Nelson Gurner et puis bien sûr avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, concert de rentrée le 17 septembre prochain sous la direction de Mikko Franck pour ouvrir cette nouvelle saison 2021-2022. Tout l'été, Nicolas Baldeyrou, je poserai en fin d'entretien la même question à nos invités. Vous êtes le premier, donc une question un peu personnelle, intime. Vous avez environ une minute. Vous iriez où, avec qui et quelle musique, là, maintenant ?
Bon, c'est pas évident comme question, ça, mais comme je disais, moi, je suis complètement fou de musique baroque et je suis fou de Venise, en fait. Donc, c'est une ville que j'adore. J'y reviens très, très régulièrement pour plein de raisons. Et j'adorerais me téléporter dans le temps, on va dire, à Venise... début 18e, découvrir cette espèce de ville complètement folle en ébullition avec tellement de compositeurs incroyables, évidemment Vivaldi, mais il y en a plein d'autres, quoi. Il y a Tartini, Lotti, Asse, il y en a. Et donc moi, si j'avais vraiment à choisir, j'irais justement à cette époque-là avec la femme que j'aime, tout simplement, écouter mon opéra préféré de Vivaldi, quoi, Orlando Furioso par exemple.
Merci beaucoup Nicolas Baldeyrou, merci d'avoir été avec nous, très bon concert pour ce mois d'août. Et à la rentrée, nous allons continuer à vous écouter, cette fois-ci dans l'Octuor avec plein d'autres musiciens, donc sept autres de Franz Schubert. Très bel été, merci.
Merci beaucoup. Thank you.
À 8h56 sur France Musique, le Scherzo Allegro Vivace de l'Octuor en fa majeur de Franz Schubert, interprété par nos 8 musiciens, Nicolas Baldero qui était notre invité ce matin à la clarinette, Julien Hardy au basson, David Guerrier au corps, Pierre Fouchenret et Sushi Okada au violon, Marc Desmond à l'alto, Yann Levionnois au violoncelle et Yann Dubost à la contrebasse. Ainsi s'achève notre musique matin. Je vous retrouve donc demain et nous recevrons à 8h30 le pianiste Éric Lesage. Il nous parlera entre autres du Festival International de Musique de Chambre de Salon de Provence. Je n'oublie pas le jeu. Évidemment, vous êtes nombreux à avoir participé ce matin. Il fallait répondre Strauss lui-même le héros de sa vie de héros, son poème symphonique qu'il a composé. Bravo à vous, Martine à Montrouge, Christian à Clichy ou encore Georges à Grenoble. Vous gagnerez donc le disque Strauss, justement, interprété par Antonio Papano à la tête de l'orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile et Bertrand Chamaillou avec burlesque également au programme de ce disque. Donc, 3 disques dans 3 boîtes aux lettres différentes. Merci aux attachés de production ce matin, Lara Castiglione, Laure Poissonnier et Élise Lejeune. Taïsia Froidure à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Déborah Dagobert et YouTube Diego Hack Lopez. Tout de suite, je vous laisse entre les mains, les belles mains de Charlotte Landru-Chandès pour 3 heures de musique. Bonjour Charlotte.
Bonjour Gabrielle.
Tout va bien ?
Écoutez, tout va très bien. Aujourd'hui, on va partir au sud avec de la musique solaire, parce qu'il fait pas très beau, donc voilà, on va se réchauffer comme on peut.
Est-ce que vous pouvez nous donner votre compositeur préféré, Charlotte ?
Mon compositeur préféré ? Alors comme ça, à froid, je dirais Brahms.
Très bien, bon écoutez, on va en écouter donc ce matin.
On va peut-être en écouter.
Je vous souhaite une belle émission. À demain Charlotte.
À demain Gabrielle.
Bonne journée, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.